Lizzie présente Signe de vie de José Rodríguez dos Santos, lu par Philippe Allard. Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. William Shakespeare, Hamlet. Avertissement. Toutes les informations scientifiques présentées dans ce roman sont vraies. Prologue. Des volutes de sable tourbillonnèrent, balayant le sol aride du plateau. Le vent soufflait fort. Descendant des sommets enneigés, il secouait les cyprès pourpres et parfumait l'air d'une douce odeur de sauge. La sensation aurait pu être agréable si la bise n'était pas mordante et la poussière qu'elle soulevait dans son sillage ne venait pas s'abattre telle une tornade sur la forêt d'antennes. Assis, les pieds sur le bureau, Thomas Quinn détourna les yeux de la fenêtre et les posa, découragé, sur le paquet de feuilles qu'il tenait à la main. Il fit un effort pour réprimer un bâillement. Il n'en avait aucune envie, mais il allait devoir passer les prochaines heures à vérifier toutes les données imprimées sur ces pages. Quel mortel ennui! Il n'avait qu'une envie, c'était de monter dans sa voiture, prendre l'autoroute I5 et filer à Reading s'amuser. Il entrerait dans un bar, flânerait dans une librairie, verrait quelques filles. Ou mieux encore, il parcourrait les 500 kilomètres jusqu'à San Francisco et irait sur Fisherman's Wharf déguster un délicieux crabe dans l'un des nombreux restaurants du Pier 39. Puis, il irait manger une glace au chocolat sur Girardelli Square. Mais non. Au lieu de se promener, il devait rester enfermé dans un bureau déprimant à Hat Creek et se livrer chaque jour au même rituel rébarbatif, à savoir analyser les observations enregistrées par l'ordinateur au cours de la nuit. Il jeta un œil sur les données imprimées. La longue suite de chiffres était on ne peut plus fastidieuse et, il en était convaincu, elle ne mènerait nulle part. Non seulement il n'y avait là rien de pertinent, mais ces informations étaient aussi transmises en temps réel à l'Institut SETI et à l'Université de Berkeley, où elle pouvait être tranquillement examinée. Quel idiot il avait été de s'être laissé enfermer dans ce trou. Tout ça à cause de ses stupides rêves d'enfant. Il avait passé son adolescence en Angleterre à dévorer de vieux livres de science-fiction de Robert A. Heinlein, Ray Bradbury et Arthur C. Clarke que son grand-père conservait au grenier et à regarder à la télé des vieilleries telles que Star Trek, Star Wars et autres inepties du temps de ses parents. Toujours est-il que la magie de l'univers et de ses mystères s'était insinuée en lui à travers ses pages jaunies par les ans et les images surannées de vieux films et séries. C'était justement à cause de cette passion dévorante qu'avant même de terminer ses études à York, il avait posé sa candidature pour faire un stage à l'Institut SETI. Quelques mois plus tôt, lorsqu'il reçut une réponse positive, il avait ressenti une joie indescriptible. Il s'était imaginé à la tête d'un immense projet de communication interstellaire, une espèce de Capitaine Kirk ou de Mr. Spock, voire de Luke Skywalker, explorant l'inconnu sidéral. Il avait tellement hâte. À peine ses études achevées, il se lança dans la grande aventure. Il prit l'avion, survola l'Atlantique, traversa l'Amérique et débarqua en Californie, des rêves plein la tête et les valises remplies d'illusions. La réalité se révéla bien moins épique que ses songes juvéniles. Les bureaucrates de l'Institut SETI profitèrent de son ingénuité et de sa bonne volonté, et surtout de sa méconnaissance des États-Unis, pour l'envoyer à Hat Creek sous prétexte que c'était là que l'aventure, la vraie, avait lieu. Et lui, pauvre niais, il y avait cru. À peine arrivé, il comprit qu'il allait passer tout l'été sur un plateau perdu de Californie à scruter des listes infinies de données crachées par des ordinateurs. Jour après jour, toujours la même rengaine, une litanie sans fin de chiffres inintelligibles qu'il devait vérifier afin d'y rechercher un modèle, une anomalie, une séquence qui ne serait pas aléatoire. Il regarda à nouveau par la fenêtre, non pour s'assurer que le panache de poussière continuait à tourbillonner, mais pour observer les dizaines d'antennes paraboliques qui scrutaient le ciel, telles des sentinelles silencieuses. L'observatoire radio de Hat Creek hébergeait l'Allen Telescope Array, un réseau d'écoute astronomique appartenant à l'Institut SETI qui avait été financé par l'un des fondateurs de Microsoft. Plutôt que d'utiliser une seule antenne géante, le projet comportait 42 antennes plus petites et surtout moins onéreuses qui fonctionnaient en réseau et couvraient simultanément de multiples fréquences radio allant de 0,5 à 11,2 GHz. L'endroit était si reculé qu'il offrait en outre l'avantage de réduire les risques d'interférences dus à des émissions humaines. Était-il possible que tout cela aboutisse un jour et que les radioastronomes puissent vraiment entendre quelque chose? Il en doutait. En vérité, dans son fort intérieur, il avait déjà perdu la foi. La réalité avait anéanti ses rêves. Si au bout de tant d'années, voire de décennies, on n'avait rien capté, que fallait-il en conclure? Que les extraterrestres étaient fâchés et qu'ils ne voulaient parler à personne? Il plongea enfin dans les feuilles et examina les chiffres imprimés. Comme on pouvait facilement l'imaginer, la séquence du jour était aléatoire et parfaitement anonyme. Il n'en ressortait rien. Rien qu'une suite de chiffres, sans ordre apparent, simple produit de la radiation cosmique de fond ou de l'activité normale des étoiles, des trous noirs et des galaxies vers lesquelles les antennes étaient dirigées. L'une après l'autre, les feuilles sorties de l'imprimante avaient enregistré les signaux radio émis par les pulsars, quasars et autres objets sidéraux dans le chaos apparent de l'univers. Agacé et désenchanté, il jeta la rame de papier par terre avec rage. Blast it! Les feuilles s'éparpillèrent sur le sol et Thomas, déjà un peu moins frustré, se baissa pour les ramasser.
Tommy!
Appela une voix.
Que se passe-t-il?
C'était Leonard Pinker, le radioastronome qui dirigeait l'Allen Telescope Array.
Ce n'est rien, Léo,
s'excusa le stagiaire en ramassant rapidement les feuilles avant que son chef ne les voie.
J'ai laissé tomber quelque chose.
La silhouette ronde de Leonard apparut à la porte. Le responsable du projet, un homme d'âge moyen, chauve, avec un corps énorme et une barbe grise, tenait un mug de café arborant le logo du SETI. Il s'adossa à la porte et contempla Thomas, agenouillé par terre, en train de ramasser les papiers qui jonchaient le sol.
« C'est frustrant, je sais, » reconnut Léonard. « Ça fait des années que je suis ici et ça m'énerve encore parfois. Il m'arrive d'avoir envie de tout larguer et de ficher le camp. »
« Et pourquoi vous ne le faites pas ?»
C'est un jeu de patience, Tommy. Nous devons être conscients que des décennies et des décennies peuvent s'écouler sans qu'on trouve rien d'intéressant. Mais quand on captera quelque chose, ce sera extraordinaire. Je veux participer à cette découverte. C'est ça qui me fait rester.
Ayant fini de ramasser les feuilles, le stagiaire se releva et regarda son chef. S'il y avait une chose qu'il appréciait en Amérique, c'était le côté informel des relations de travail, complètement à l'opposé de ce qu'elles étaient en Europe. Léonard était son chef, mais il n'avait pas la grosse tête et lui avait même demandé de l'appeler Léo. Cela l'encourageait à exprimer plus ouvertement ses opinions.
« je sais bien, mais... »
Il laissa la phrase en suspens.
« Mais quoi ?»«
C'est pas ça le problème, Léo. »«
C'est quoi alors ?»
Le jeune Britannique hésita avant de poser la question.
« Où sont-ils ?»«
Qui ça, ils ?»
Thomas pointa son pouce vers le plafond.
« Eux ?»
Comprenant la question, le responsable de l'Allen Telescope Array avala une gorgée de café et respira profondément.
« Ah, eux !»